La biodiversité samedi, le rendez-vous nature de NAV, avec le syndicat mixte de la baie de Bournaz.
Vous êtes bien sur 9FM, on se retrouve aujourd'hui sur l'île de Noirmoutier pour la biodiversité samedi. Cette saison avec le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf, on rencontre des acteurs de la biodiversité pour découvrir aussi leurs actions. Aujourd'hui le thème, la gestion des espaces en faveur de la biodiversité. On part en balade ou presque, en tout cas on est sur l'île avec Régis Marty de la Comcom de l'île, responsable du service espaces naturels et alimentation durable. Et avec nous Jean-Guy Robin d'Océan Marais de Mont, responsable scientifique et technique des sites, par exemple, du Davio. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va vous présenter un peu, même si on vous a déjà eu à l'antenne. Hein. On peut raconter votre parcours un petit peu, Jean-Guy, avant d'arriver à Océan Marais de Mont, et aujourd'hui, ce que vous y faites.
Alors, j'ai fait une formation en biologie comme Régis, et puis après, je me suis spécialisé dans la gestion des musées et des expositions à Paris, au Muséum National d'Histoire Naturelle. Je travaillais en même temps sur le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, aux inventaires. Et puis en 98, eh bien, j'ai été embauché par la communauté de communes sur le site du Davio, principalement pour gérer les espaces naturels sensibles.
On va détailler votre travail quotidien. Régis Marty, vous avez aussi fait de la bio et un peu beaucoup.
Oui, j'ai fait de la bio, effectivement. Alors j'ai aussi travaillé avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, aussi, voilà, comme Jean-Guy. Moi plutôt en écologie, donc j'ai fait une thèse à Dinard. Et puis je suis arrivé à peu près en même temps que Jean-Guy, je suis arrivé en 99 à la communauté de communes et avec une fonction vraiment de gestion de la réserve naturelle régionale du Polder de Sébastopol au tout début.
Et vous connaissez bien tous les deux, ça vous arrive de travailler ensemble?
Ah ben, on travaille régulièrement ensemble, on échange très régulièrement sur des thématiques communes aux deux sites.
On va voir précisément où vous travaillez, Régis et Jean-Guy. Là on n'est pas très très loin, alors on s'est mis à l'abri parce qu'il y avait beaucoup de vent, hein, du Polder de Sébastopol, ça fait partie des sites que vous gérez?
Oui, donc effectivement, on a une réserve naturelle régionale sur l'île Noirmoutier, qui est gérée par la communauté de communes. Il y a aussi une réserve naturelle nationale, au Mulhambourg, qui est gérée par la LPO nationale. Et puis la communauté de communes, alors il y a aussi un espace naturel sensible du département, au niveau de la dune de l'Adresson. Et puis la communauté de communes gère aussi différents sites à vocation écologique, en zone de marais essentiellement, sur Noirmoutier, l'Épine, la Guérinière. Donc c'est tout un ensemble de petits sites. Et avec un site, on va dire, pilote, qui est la réserve naturelle.
Alors vous, Jean-Guy, on va traverser effectivement le pont ou le Gouas, et on vous retrouve sur le territoire d'Océan Marais de Mont, précisément au Davio, mais pas seulement?
Alors principalement au Davio pour la partie marais, parce que la communauté de communes, depuis 1998, gère les espaces naturels sensibles départementaux du Davio, pour le compte du département de la Vendée, sur la partie marais. Mais la communauté de communes a, depuis les années 2000, de nombreux programmes aussi sur la partie littorale avec l'Office national des forêts. Et puis gère aussi un ensemble de mesures compensatoires où on a des programmes de conservation d'espèces.
On va parler de ça un peu brièvement finalement sur cette émission, parce qu'il y a quand même beaucoup de missions. On va parler de ces espaces naturels, de réserves naturelles aussi. Et vous vouliez notamment, Régis Marty, préciser le sens de ce vocabulaire. Naturel, c'est un terme équivoque, m'avez-vous dit?
Oui, parce que dans le naturel, on voit le sauvage, et en fait sur nos sites, aussi bien les espaces naturels sensibles que les réserves naturelles, en zone littorale comme ça, il n'y a pas grand chose de naturel, c'est-à-dire que l'homme intervient régulièrement pour la gestion en vocation écologique. Donc je préfère parler de sites à vocation écologique que de réserves naturelles au sens sauvage, voilà, où il y aurait un laisser-faire, ce qui n'est pas oublatement le cas sur ces sites-là.
Ce sont tous des sites où l'homme intervient, où l'homme va maîtriser la nature quelque part.
Alors, je ne vais pas parler de maîtrise. En tout cas, les sites ont été construits par l'homme, créés par l'homme, que ce soit un marais salant, que ce soit le Polder de Sébastopol ou le Davio. Et puis derrière, effectivement, alors, on intervient, on essaie d'intervenir le moins possible, d'essayer de faire ce qu'on appelle la naturalité, parce que voilà, on parle pas de naturel mais de naturalité, en tout cas de faire que les milieux puissent évoluer le plus simplement possible sans notre intervention. Donc on essaye de pas trop intervenir, mais rien que la gestion des niveaux d'eau joue beaucoup sur nos sites, et ça c'est nous qui les gérons.
On va plus parler de gestion que de maîtrise, voilà. Et alors dans le travail de gestion, il y a plusieurs missions.
Plusieurs missions, alors nous, je pense que Jean-Guy donnera aussi cet élément-là, c'est la gestion des niveaux d'eau, c'est pour nous, en zone humide évidemment, un des éléments clés, les niveaux d'eau, la salinité, les variations de niveau d'eau, tout ça c'est des éléments qui vont nous permettre de donner le tempo, une direction dans la faune et la flore aquatique qu'il va y avoir, mais aussi la faune et la flore terrestre. Les niveaux d'eau vont jouer au blasonnement sur ce qui va se passer au-dessus du milieu aquatique. Donc c'est très important, c'est un des éléments clés de notre gestion au quotidien.
Même question pour vous, Jean-Guy, sur les espaces que vous gérez, quelles sont les principales missions ?
Eh bien, en complément de la gestion hydraulique, il y a aussi toute la partie gestion des pratiques agricoles. Comme on est sur des sites où il y a une économie installée, eh bien, le travail du gestionnaire, c'est aussi de concilier les pratiques agricoles, les pratiques économiques et la biodiversité. Donc ça, c'est un travail aussi du quotidien, de voir quels sont les secteurs de fauche, quels sont les secteurs de pâturage, quel type de pâturage on applique et comment on peut concilier la vie humaine sur le marais et la biodiversité.
Quels que soient d'ailleurs les sites, hein, que ce soit sur l'île ou sur le territoire d'Océan Marais de Mont, vous avez effectivement des activités humaines, agricoles, on a aussi des soignants, on l'a vu, hein, dernière émission, c'était avec David Brett sur le marais d'Orédon, que vous allez impliquer d'ailleurs dans la gestion autour de la biodiversité, on l'a vu avec David, mais pas seulement. Quand je vous entends, en fait, vous allez intervenir avec les agriculteurs.
Alors, sur le Davio, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir des agriculteurs qui sont motivés. On a plus de 8 contractants qui sont agriculteurs sur le site. Et ils ont chacun leur pratique, mais ils essayent, au jour le jour, d'intégrer aussi bien les oiseaux, la flore, dans leur pratique agricole pour réussir à atteindre les objectifs du site, typiquement augmenter le nombre de vanneaux nicheurs ou de chevaliers gambettes en adaptant leur pratique de pâturage.
Idem pour vous, Régis, sur l'île ?
Oui, c'est le cas. Alors, sur la réserve, ça fait le quatrième agriculteur avec qui je travaille. Donc, à chaque fois, c'est une réflexion de nouveau, parce que qui dit nouvel agriculteur dit nouvelle pratique pour lui. Donc, on travaille avec ces exploitants à, effectivement, comme dit Jean-Guy, à trouver les bonnes, les bonnes pratiques qui nous concilient à la fois eux, leur activité, qu'ils puissent vivre de leur activité, hein, on est bien d'accord, et puis derrière, qu'on puisse être en bonne intelligence sur la gestion écologique qu'on avait prévue dans nos plans de gestion. Donc, c'est pas obligatoirement simple tous les jours, on voit pas les choses de la même manière, mais on avance au fur et à mesure, et on trouve toujours des compromis pour bien avoir cette gestion agricole sur nos territoires.
Ouais. Comment préserver ces sites, ces activités humaines aussi, avec également des visites que vous intégrez dans la gestion de ces territoires, l'écologie du territoire. Ces sujets, on va les aborder après une petite pause musicale. Feels so right when you look in my eyes. Shot my heart back to life. Yeah, you answered a night. Break into light. Spark into fire. Made the stars alive. I was losing my mind. Chasing the truth. Neuve FM, la biodiversité samedi nous mène aujourd'hui sur des sites remarquables, hein, riches en biodiversité. Le polder de Sébastopol, par exemple, sur l'île Noirmoutier, qui est juste derrière nous, où la biodiversité est préservée, comme pas très loin non plus la réserve naturelle de Mélembourg, comme au Davio, à la Barre de Mont. Dans tous ces cas, les Comcom, en tout cas le premier et le dernier, interviennent. On évoque ces sujets avec Régis Marty de l'île de Noirmoutier et Jean-Guy Robin d'Océan Maraine-Mont. Et on évoquait le fait que préserver la biodiversité, donc que c'était évidemment intégrer des activités humaines, et surtout, Régis, vous l'avez aussi évoqué en préparant l'émission, ce n'est surtout pas mettre cette biodiversité sous cloche.
Non, donc déjà par l'activité agricole, bien intégrer cette activité agricole, parce qu'en fait pour nous c'est aussi un outil de gestion, et puis comme dans les espaces naturels sensibles, enfin sur le polder de Sébastopol, c'est vrai qu'on a un accueil du public assez ouvert, hein. On est proche du passage du bois, donc et donc on a plusieurs accès et qui permettent à une visite. Alors voilà, toujours pareil, hein, si on reste sur les chemins, si on respecte les réglementations, il n'y a pas de problématique particulière vis-à-vis notamment des oiseaux d'eau reproducteurs. Là, on est en tout début de période de reproduction pour nous. C'est un moment un peu compliqué, hein, 1er mai, 8 mai, grand week-end, on sait qu'on va avoir beaucoup de monde. C'est sensible. Jusqu'à maintenant, ça a toujours fonctionné, donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Mais voilà, on est ouvert en tout cas au public, et c'est aussi un élément clé de notre gestion.
Ce cadre, il est important. Même question sur la mise sous cloche, ce n'est pas forcément du tout votre objectif, Jean-Guy Robin.
Alors, comme pour la réserve naturelle, nous, en complément des actions de préservation du patrimoine naturel, d'expérimentation, parce qu'on travaille aussi sur la biologie des espèces pour voir comment est-ce qu'il fonctionne, eh bien, il y a une obligation de sensibilisation du public et d'ouverture gratuite. Donc, depuis 2 ans, sur le site du Davio, on a un observatoire qui est ouvert gratuitement au public, où les gens peuvent venir voir les oiseaux qui sont tout proches, hein. Comme le disait Régis, actuellement on a les avocettes élégantes qui sont en train d'avoir les premiers poussins, les essaims blanches qui sont en train de nicher, des moitrieuses qui sont visibles à tout un chacun juste à côté de l'observatoire, et on donne accès à cette faune et cette flore au travers d'observatoires ou de sentiers qui sont balisés, qui permettent un peu de hiérarchiser les choses. On peut pas aller partout parce qu'il y a des endroits qui sont des endroits de quiétude, et puis d'autres où on peut voir facilement les oiseaux ou la flore ou la faune.
Et donc ça a été votre travail de déterminer les sites où on pouvait emprunter un sentier ou pas ?
Alors ça, c'est un métier. Non, bien évidemment, on ne va pas mettre un observatoire n'importe où, et souvent il y a des aménagements initiaux qui permettent de voir un peu où les oiseaux s'installent, comment ils réagissent aux visiteurs. Et puis ensuite, on installe les espaces de découverte pour que cela fonctionne et qu'il n'y ait pas d'atteinte à la biodiversité.
Ça fait partie aussi de votre métier, Régis, donc.
Oui, il n'y a pas de problème. Et puis on fait des visites guidées. Donc que ce soit, alors nous, en régie, on en fait vis-à-vis des scolaires, des universitaires, pour informer et former. Et puis la LPO. On a une convention avec la LPO de Vendée pour faire des visites guidées grand public, donc dès le mois d'avril jusqu'au mois de septembre, sur la réserve.
Et là, donc, elles sont bien fournies, les réserves, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'oiseaux.
Ça arrive, là, doucement. La météo était un peu compliquée, mais les oiseaux arrivent. Alors moi, on a un peu de décalage avec Jean-Guy. Moi, les avocettes sont à peine pondues, donc il a quasiment 3 semaines d'avance par rapport à la réserve du polder de Sébastopol, ce qui est normal, c'est classique. On est une réserve qui récupère des oiseaux, mais vraiment très tardivement en reproduction. Donc là, c'est le tout début. On a les premières pontes de Stan Kojek aussi, depuis cette semaine, donc ça va venir dans deux semaines, on saura réellement le gros du peuplement d'oiseaux qui sera présent sur la réserve.
Et ça fait partie aussi de vos missions d'observer justement au cours de l'année les allées et venues, le nombre d'oiseaux qu'il peut y avoir sur votre territoire.
Alors pour le grand public, nous on a des visites tous les jeudis matin à 10h à l'observatoire. Ça peut être un moyen pour les visiteurs ou les gens qui sont sur le site du Davio de rencontrer le gestionnaire et aussi de parler de tous les programmes de suivi qu'on a en ce moment. Actuellement, depuis la semaine dernière, on pose des balises sur les barges à queue noire pour suivre leur trajet migratoire jusqu'en Afrique, et aussi déterminer l'occupation de l'espace lorsqu'ils ont les jeunes, c'est-à-dire combien de prés ils utilisent, comment ils les nourrissent, à quel moment il y a les éclosions. Donc c'est la partie expérimentation. Et cette partie expérimentation, c'est vrai que c'est un travail qu'on fait dans les collectivités, c'est qu'on essaye de le transmettre le plus rapidement possible aux visiteurs, parce que c'est toujours intéressant aussi de comprendre à quoi servent ces espaces et comment est-ce qu'ils fonctionnent.
Et vous disiez aussi, ça fait partie effectivement quelque part du rôle de ces sites, hein, un rôle dans l'éducation, dans la transmission, dans la médiation aussi.
Ah oui, oui, et puis c'est aussi un moyen de sécuriser le site, hein, si on arrive à informer les gens et voilà, à les sensibiliser, ça permettra d'éviter des comportements qui correspondraient pas à notre gestion. Nous, on a un gros problème, une grosse problématique, c'est de chiens non tenus en laisse, donc ça c'est récurrent sur l'ensemble des sites, que ce soit les plages ou voilà, ou les forêts. Donc c'est des éléments importants. Je sais que les gens voilà ont du mal à comprendre ce type de contraintes, mais pour nous c'est très très important d'avoir voilà cette gestion là. Mais pour les suivis, de la même manière, voilà, avec Jean-Guy, on a des échanges, hein, réguliers sur les comptages, donc à l'échelle de la baie de Bourgneuf. Donc il n'y a pas que nous, hein, il y a aussi le site au niveau de Boin, de la lagune de Boin, géré par la Fédé de chasse, donc la réserve naturelle nationale. Tous ces sites-là ont des suivis réguliers de reposoirs de marée haute, de reproduction. Donc ça permet d'échanger à une échelle Marais Breton qui est... Les baies de Bourgneuf, qui est l'échelle du site, on va dire, réellement valide sur le plan de l'écologie et de la gestion des espèces.
Ces échanges, ils font partie aussi voilà, d'un lien interterritoire. Vous disposez par ailleurs d'outils, d'objectifs. On va évoquer dans cette dernière partie qui arrive après une pause, le fait par exemple de travailler sur des sites Natura 2000, d'intégrer ce qui a été nommé la trame verte et bleue dans une dynamique de défense de la biodiversité. Petite pause et on revient sur l'île de Noirmoutier.
Allô, il vous faut quoi comme béton? C'est pour faire quoi? Travaux de clôture, scellement de bordure, plots béton, réalisation de dalles? Une sculpture? Et puis quoi encore?
Faites ce que vous voulez de votre béton. Passez au libre service. Self Béton, choisissez la quantité, imprimez le coupon, positionnez votre véhicule sous le distributeur, scannez le coupon, repartez avec votre béton en 3 minutes.
Et ça se prend pour des artistes.
Self Béton, règlement CB, tarif préférentiel pour les professionnels. Ouvert 6 jours sur 7 sur le site de Paysalis, route des Sables à Soulan.
Avec la tendance sans make-up, c'est génial qu'on s'autorise enfin à avoir le choix. Moi, j'ai choisi d'utiliser des cosmétiques, mais sans détruire ma peau et ma planète. Cosmoéthique propose une alternative aux produits traditionnels, avec une gamme de marques engagées, saines et durables, fabriquées en France avec des ingrédients bio, mais aussi des cosmétiques à fabriquer chez soi ou en s'inscrivant aux ateliers Cosmoéthique pour apprendre à faire des produits adaptés à votre peau et à vos envies. Cosmoéthique, cosmétiques naturels et ateliers à Chaland, à réserver sur Facebook et Instagram. Make-up, maquillage.
Ça veut dire
Vous êtes bien dans la biodiversité, samedi 1er, samedi du mois. Alors on est sur le terrain ou presque, il y a eu beaucoup de vent, donc on est à l'abri à l'office de tourisme de Barbâtre. Encore aujourd'hui, en ce début de mois de mai, quand même la nature est en éveil vers le polder de Sébastopol, vers le Davio. On profite quand même d'un cadre remarquable avec nos invités. Ce sont vos terrains de jeu quotidiens, Régis Marty, ici sur l'île Jean-Guy Robin, sur Océan Marais de Mont, que c'est site préservé. Vous êtes très peu dans un bureau au quotidien.
Aïe, comment dire, de plus en plus quand même dans un bureau. Les prises de fonction font que voilà, mon temps est compté. Moi, à cette période-là, la printanière, on est à 80% de notre temps sur le terrain. Ça permet, voilà. Après, l'hiver, voilà, on est un peu plus à l'abri et à faire de la paperasse. Et voilà, mais ça fait partie du travail. Sans parler de terrain de jeu, mais en tout cas, c'est bien nos terrains de travail réguliers. Oui,
oui, c'est un petit jeu de mots. Hein. Ces sites, en tout cas, ils ne sont pas complètement autonomes, avez-vous aussi expliqué, Régis. Vous vouliez évoquer l'importance d'abord des liens écologiques forts que vous entretenez avec d'autres territoires, avec les voisins. Voilà, vous savez qu'il y a un impact, peut-être le travail de Jean-Guy a un impact sur le vôtre, en tout cas sur celui des oiseaux ou pas, je ne sais pas.
Peut-être, en fait, tous les oiseaux, ou quasiment l'ensemble des espèces qui nichent dans le polder, donc c'est 10 000 couples à certaines années, il n'y en a quasiment aucun qui s'alimente sur la réserve. Donc ils sont tous dépendants de ce qui va se passer à l'extérieur, que ce soit les sternes, qui elles mangent essentiellement du poisson, donc ça va être en mer, donc ça dépendra de la pêche, de l'activité de pêche, ça dépendra aussi du fait que les poissons soient bien présents au bon moment, notamment de l'éclosion des poussins, donc ça veut dire que ça dépendra aussi de la température de l'eau, donc la problématique du réchauffement climatique et de nos activités à grande échelle. Et puis les mouettes, par exemple, elles, par contre, elles vont plutôt être terrestres, au tout début notamment, manger des vers de terre, des insectes, des micro-mammifères, et donc elles vont aller faire les 20-30 km à l'intérieur des terres. Et ça va dépendre voilà, de l'activité agricole, donc que ce soit une activité de labour dans un premier temps, mais après quand il y a de la fauche dans le marais breton, ces mouettes vont effectivement être derrière les barres de fauche, donc la façon dont ça va être pratiqué la fauche sur le marais breton va impacter assez rapidement l'alimentation des jeunes sur la réserve du polder de Sébastopol.
C'est important évidemment de parler de ce lien et puis de tout ce qui encadre votre travail. Vous avez pas mal d'outils hein, qui vous dirigent en fait dans votre quotidien. Par exemple, vous évoquiez le fait que vous êtes dans un ENS, c'est ça ? Le département a mis en place, Jean-Guy Robin, des outils de préservation de biodiversité que vous devez suivre ou que vous pouvez utiliser.
Alors, comme pour les réserves naturelles, les espaces naturels sensibles ont des plans de gestion qui sont des outils de planification qui sont réécrits sur 5 ou 10 ans, qui permettent de définir les enjeux de nos territoires, leurs responsabilités, leurs sensibilités et leurs fonctionnalités, et en fonction de ça, de déterminer des actions. Donc le rôle du gestionnaire est de mener ces actions sur le plan, sur les 10 ans, et puis ensuite de les évaluer. Donc on a un faisceau d'indicateurs. Les indicateurs, c'est des indicateurs d'état, savoir si à partir d'un nombre d'avocettes de départ, eh bien, si on a réussi à augmenter ce nombre d'avocettes. De pression, si on a une pression sur la faune ou la flore et qui est néfaste ou positive, savoir si on arrive aussi à la faire évoluer. Et puis les résultats qu'on obtient en fait. Tous ces faisceaux de suivi, ça prend aussi un petit peu de temps. Aussi bien en termes de temps passé sur le terrain à essayer de compter les oiseaux. Les oiseaux, ça vole, c'est pas toujours évident à compter. On a des techniques, hein, on peut baguer pour pouvoir les reconnaître et avoir des estimations plus précises. Et puis ensuite, la restitution, pour voir si l'argent public a été utilisé à bon escient aussi.
On a quelques comptes à rendre, hein, si j'entends bien aussi. On ne l'a pas évoqué encore dans cette émission, c'est la trame verte et bleue. Moi, je suis assez surprise parce que finalement, ça vous investit. Vous nous rappelez comment et pourquoi ? Et je suis assez surprise parce qu'apparemment, tout le territoire est en trame verte et bleue.
Disons qu'on est sur un territoire un peu particulier. C'est vrai que la trame verte et bleue a été, je pense, conçue essentiellement pour des territoires contraints sur plan biologique, donc notamment en zone urbaine où effectivement, il y avait des patchs de nature et qu'il fallait les relier entre eux. Donc, mais on s'est aperçu qu'il y avait aussi ces besoins de trame verte et bleue à une échelle beaucoup plus vaste, même dans des endroits, entre guillemets, naturelle, hein, je reviens sur le, voilà, mais agricole ou voilà, où les haies, les bosquets ont des liens entre eux et qu'il faut pouvoir garder ces liens. Nous, nos réserves, c'est aussi des réservoirs de biodiversité, mais à un moment ou à un autre, ils peuvent aussi servir à exporter, entre guillemets, ces espèces qu'on a, nous, sur nos terrains, à l'extérieur des réserves. On a, voilà, on a ces liens-là aussi à avoir, et ça permet aussi de pouvoir, pourquoi pas, quand le milieu extérieur est en bon état, de pouvoir faire sortir nos espèces de ces territoires-là et d'aller coloniser des nouveaux territoires. Donc ces trames vertes et bleues, c'est un moyen à la fois de disperser la biodiversité, mais aussi de mieux protéger à une échelle beaucoup plus vaste nos territoires. On a aussi besoin d'avoir des liens. Hein. On parlait de mise sous cloche, on n'est pas des mises sous cloche. Et on a besoin d'avoir des liens avec les milieux extérieurs.
Autre point commun, vous œuvrez tous les deux sur des sites Natura 2000. Ça vous implique, ça vous investit, ça vous contraint ?
Alors, une des actions principales du site Natura 2000, c'est entre autres les mesures agro-environnementales et climatiques. En gros, c'est tout un travail qui est mené avec la profession agricole pour préserver la biodiversité sur le site. Sur nos espaces qui sont des espaces d'expérimentation et de connaissance du patrimoine biologique, on essaye d'amener notre petite pierre à l'édifice en expliquant la biologie des espèces et quels sont les éléments pertinents pour pouvoir améliorer et concilier l'activité agricole et la préservation du patrimoine naturel.
On voit quand même qu'il y a pas mal de cadres, hein, et dernier cadre, c'est quand même le côté réserve naturelle, donc régionale pour Sébastopol, nationale pour Mulhembourg. Régis Marty, est-ce qu'il y a des cases à cocher dans ce cadre-là quand on œuvre, quand on gère une réserve naturelle ?
Alors c'est un label, ça permet d'avoir des échanges, d'augmenter les échanges aussi avec les autres réserves, parce que ça nous permet d'être dans un réseau qui est Réserve Naturelle de France, donc ça ouvre quand même beaucoup d'opportunités de formation, d'information, d'échange. Donc ça c'est quelque chose de très très important pour nous, parce que là effectivement on parle entre nous à l'échelle du Marais Breton, mais il faut qu'on aille voir aussi ailleurs. C'est important d'aller chercher ces échanges-là. Donc oui, c'est un label. Mais ça permet aussi effectivement d'avoir des obligations aussi, comme disait Jean-Guy, un peu de résultats, de faire valoir un peu nos actions, de justifier aussi les dépenses qui sont réalisées sur nos sites. Donc c'est un point important. Ça nous permet, je pense, nous, d'être un peu plus connus, sans doute, reconnu, et puis de pouvoir aussi amener nos connaissances à l'extérieur.
Alors on a fait un petit tour, hein, je crois, de vos missions qui sont assez vastes. Vous savez que je termine toujours l'émission par une question commune chaque saison. Alors la saison qui bientôt s'achève, il reste une émission si je ne me trompe pas. Vous connaissez peut-être cette question. Vous travaillez sur un terrain qui est absolument magique, celui de la nature, de la biodiversité. C'est cette magie qui vous motive le matin, qui vous investit dans vos missions, mon cher Jean-Guy Robin.
Eh ben, pas vraiment. Je ne suis pas sûr que c'est cette magie du patrimoine naturel qui me motive. C'est plutôt l'échange avec aussi bien la population, enfin les gens qui habitent le Marais, que les visiteurs d'un jour ou les passionnés, parce que on s'aperçoit au fur et à mesure que on a quand même un espace qui est exceptionnel, et tous ces échanges qu'on peut avoir avec des naturalistes qui viennent de l'extérieur ou avec quelqu'un qui habite sur le Marais et qui découvre qu'il y a plein d'oiseaux autour de sa maison, ben c'est vraiment ce qui peut motiver au jour le jour dans nos actions de préservation et puis aussi de sensibilisation.
C'est le concret, vous êtes un homme de terrain, de concret. Alors, Régis Marty, si je vous pose la question aussi, il y a un peu de magie quand même dans votre quotidien.
Il y a un peu de magie. De la même manière avec Jean-Guy, je ne dirais pas qu'il y a de la magie, mais c'est vrai qu'il y a un plaisir de toute façon à venir tous les matins et à découvrir nos sites tous les matins. Mais c'est vrai qu'il y a cet élément d'obligation, en tout cas, de rôle à jouer vis-à-vis à la fois des espèces, mais il ne faut pas trop non plus se dire qu'on est des sauveurs, ce n'est pas le cas. Ça demande effectivement que tout le monde y mette du temps et en dehors des réserves, hein, j'insiste sur le fait que nos réserves, nos sites naturels, ce sont que des éléments, on va dire, qui montrent des choses, mais derrière, on ne fonctionnera pas sans qu'il y ait obligatoirement ces échanges avec les sites périphériques et, comme dit Jean-Guy, avec la population. Donc c'est important d'avoir ces échanges-là, et c'est peut-être ça, effectivement, qui nous guide tous les jours.